France Inter. .fr.
Bonjour. Je reçois l'écrivain, éditeur et critique littéraire Jean-Paul Antoven en ce lundi de Pâques. Homme de lettres, passionné par les auteurs, leurs écrits et le monde qu'ils nous racontent, Jean-Paul Antoven est ce vecteur subjectif entre le public et les auteurs qui décrypte, analyse, nous donne envie de lire, de découvrir depuis plus de 40 ans. 4 décennies ou plus, un peu plus, à mettre des mots sur ceux des autres, à manier les idées, les métaphores et le style pour accompagner le lecteur sur des terrains nouveaux, inconnus, effrayants même parfois. Écrire sur les écrits des autres, c'est un exercice difficile. D'écrivain sans le paraître, d'analyste sans être tout à fait penseur, il est pourtant un passeur au sens noble du terme, tout simplement. Son recueil « Saison de papier » paru chez Grasset en est une belle démonstration. Jean-Paul Antoven nous y fait découvrir des auteurs, des romans, des pensées et des idées du bout de sa plume aguerrie et nette. Nous savons ce que Jean-Paul Antoven lit, mais nous ne savons pas ce qu'il écoute. Ses goûts musicaux coïncident-ils avec son goût pour la phrase, le mot, l'esprit ? Nous avons 1 heure pour en parler avec lui et un très beau programme composé de Mozart, Puccini, Gershwin, Bach et César Franck. Bonjour Jean-Paul Antoven.
Bonjour.
Vous écoutez beaucoup de musique ?
J'ai écouté beaucoup de musique avant d'écrire sérieusement.
Ah oui ?
Oui, quand je me suis mis à écrire sérieusement, j'ai écouté moins de musique.
Parce que les mots ne laissent pas de place aux notes ?
Non, on peut pas être sur tous les fronts. Surtout les fronts de l'art, de la création, de l'imaginaire, c'est pas possible. D'ailleurs, je me méfie toujours de ceux qui aiment tous les arts de la même façon. Et biographiquement, ça s'est passé comme ça pour moi. J'ai écouté beaucoup de musique, et puis l'écriture est venue, et puis les mélomanes m'ont souvent un peu éloigné de la musique.
Pourquoi ? Parce qu'ils en parlent mal ?
Pas qu'ils en parlent mal, je trouvais que leur lexique était très étroit. Entre l'enthousiasme ou l'exécration, je ne trouvais pas les nuances. Or, c'était de nuances dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était un lexique que je trouvais trop fiévreux ou trop méprisant, mais ça ne m'allait pas. J'avais besoin de stations intermédiaires.
Donc, les mélomanes plutôt critiques musicaux.
Par exemple, ouais. Oui. Ou bien ceux qui assistent le public des concerts. Vous savez, il y a la page célèbre dans la nausée de Sartre. Il y a Roquentin, le héros de Sartre dans la nausée, qui assiste à la sortie d'une salle de concert. Et il voit ces bourgeois qui sont au contact de la matière jour après jour, mais qui, le dimanche, pendant la séance du concert, ont l'âme tout d'un coup élevée au contact de quelque chose de plus spirituel. Et il y a un passage très merveilleux de Sartre, et un peu, je vais vous le dire, qui se termine comme ça. Ils croyaient que la beauté leur était compatissante, les cons. Voilà, c'est comme ça, c'est une page très... Bon. Donc les mélomanes
vous parlent
souvent...
beaucoup.
Hein, oui. Oui.
Et vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de voir que ça aurait pu changer.
Oui, bien sûr. Oui, mais on n'a qu'une vie. Peut-être qu'il y en a plusieurs, je suppose.
Bon, on va voir si
pas vraiment
en tout
informé.
Cas, si vous serez heureux de parler de musique aujourd'hui aux auditeurs.
Bien sûr, avec vous d'abord.
Ouais, on va commencer en tout cas par Don Giovanni. Alors je ne sais pas si ça, c'est un souvenir d'enfance, un souvenir qui vous correspond peut-être. Entièrement, comme il correspondrait entièrement à Mozart.
Don Giovanni, en vérité, je voulais avoir une occasion de dire à quel point je n'aime pas la figure de Don Juan. Autant j'ai une passion pour Casanova, autant les gens en général confondent les deux. Don Juan est un méchant qui n'aime pas les femmes,
qui veut vérifier son
pouvoir de séduction. Je vous épargne l'abondante littérature qui fait de lui un homosexuel ou un impuissant. Ça, c'est, il y a des livres et des rayonnages entiers là-dessus. En revanche, Casanova, lui, est un homme qui ne se fâche jamais avec ses conquêtes, qui ne les trahit jamais. Il y a même dans une lettre au prince de Ligne, il a cette phrase que je trouve très, très royale. Il dit « Le plaisir que je donnais faisait les 3/4 du mien ». C'est joli, non ?
Oui, alors lui, Don Giovanni, il vit son existence avec une absence totale de scrupules.
Totale. Mais il n'empêche que Don Giovanni de Mozart, c'est sublime. Et alors, il y a un lien avec Casanova, parce que Casanova était ami avec le librettiste Da Ponte,
qui a écrit
le livret, et un peu, il s'est faufilé, et Da Ponte lui a permis d'écrire quelques répliques du livret. On ne sait pas quelles sont ces répliques. C'est un peu l'équivalent des versets sataniques, vous savez, où on raconte que le diable s'est faufilé, et c'est lui qui a dicté au prophète certains versets dits sataniques. Là, il y a les versets casanoviens dans Don Juan, et je trouve ça très, très, très joli.
En tout cas, on dit que c'est l'opéra qui correspond le plus à Mozart. Lui-même en était extrêmement fier. Et c'est vrai que dans la partition musicale, il arrive à combiner parfaitement le plaisir physique de la musique au jeu sensuel des sonorités et des harmonies. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous avez choisi l'introduction, mais c'est pour nous faire peut-être sentir cette folie, cette ivresse.
Thank you.
L'ouverture de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Sir George Solti. Et vous vouliez dire encore un mot sur Don Juan, je crois.
Oui, non, je me souvenais à l'instant que le vrai Don Juan, le bourlador de Séville, le modèle originel, s'est fait enterrer sur le parvis de la cathédrale de Séville afin d'être piétiné par les pas des passants pieux qui allaient dans l'église. Je trouve que c'était un joli châtiment.
Vous l'aimez vraiment pas. On va aller un peu plus au sud, Jean-Paul Antoven, puisque vous êtes né en Algérie, à Mascara.
Oui.
Vous avez grandi jusqu'à l'âge de 11 ans là-bas.
Oui.
Mais c'est une rencontre que vous avez faite avec Pierre Nora, enfin que vos parents ont faite avec Pierre Nora, qui...
Oui.
C'est lui qui vous a incité à partir assez jeune, je crois, en France.
Non, pas du tout. Pierre Nora, je l'ai rencontré en France.
Ah, à Paris.
Il se trouve que Pierre Nora avait fait son service militaire en Algérie, il avait écrit un livre, mais c'est en France. C'était la France.
Oui, c'était la
France. Mais c'est à Paris que j'ai rencontré Pierre, dès mon arrivée quasiment. Oui.
Et vous dites que c'est votre Cicéron. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi?
Je ne crois pas employer cette expression-là, mais je peux dire que c'est un homme que j'admire infiniment et à qui je suis très très reconnaissant. C'est lui qui a guidé mes premiers pas dans le monde de la littérature, des livres, de l'édition. Il a représenté pas seulement lui et son frère Simon. Ils ont représenté des figures solaires magnifiques. Le parti de la beauté, de l'intelligence, ils ont beaucoup compté. On a besoin d'avoir des points fixes et des repères. Et il en a été un, bien sûr.
Et donc, vous avez quitté l'Algérie assez jeune.
Oui.
Ce n'était pas difficile pour un jeune homme de 11 ans, c'est ça?
Non, je rêvais de quitter l'Algérie.
Pourquoi?
Je n'aimais pas cette terre imbibée de sang, de bêtises, de sottises. Je n'ai aucune nostalgie Je n'ai que des souvenirs de violence, de violence extrême, pays sublimement beau, peuple magnifique, mais encore aujourd'hui souffrant terriblement.
Et vous le ressentiez déjà?
Oui, j'ai toujours senti que c'était une terre maudite. Camus en parle de cette façon. Hein. Mmh. On peut pas aimer ce pays sans éprouver sa malédiction, ses soleils noirs.
En tout cas, Camille Saint-Saëns, lui, trouvait du repos là-bas en Algérie, même de la douceur, un repos qui avait été ordonné par son médecin, hein, et un calme parce qu'il était assez malade. Et donc, à partir de 1873, il va aller 18 fois à Alger et en Algérie. Et en 75, il a composé la danse macabre que je vous propose tout de suite, Jean-Paul Antoven, interprétée par Renaud Capuçon. Alors, minuit sonne, Satan va conduire le bal, la mort paraît, accorde son violon et la ronde commence, presque furtivement au début, s'anime, semble s'apaiser et repart avec une rage accrue qui ne cessera qu'au chant du coq, on dit au Shabbat.
Thank you.
La danse macabre, opus 40 de Camille Saint-Saëns, un poème symphonique interprété ici par Renaud Capuçon, extrait de l'album qui est sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Le Violon Roi, donc de Renaud Capuçon. Ça vous plaît, ça, Jean-Paul Antevel?
C'est sublime, c'est un morceau de musique grandiose que tout le monde connaît. Pour moi, il est un peu surdéterminé par un film, je ne sais plus de qui, peut-être de Cukor, où on voit Sitcharis. Dansant sur la danse macabre, et c'est un de mes premiers émois érotiques, je dois dire. C'était donc très important.
Oui. Elle est très érotique, cette musique, et vous me disiez en écoutant quand même cette musique que Camille Saint-Saëns aurait été professeur.
Oui, un oncle, le mari de ma tante Aline, j'ai du plaisir à prononcer son nom. Son mari était chef d'orchestre et qu'il avait été l'élève de Camille Saint-Saëns.
Lors de l'un de ses passages en Algérie.
Oui, bien sûr, évidemment.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
On va rester avec le violon, Jean-Paul Antevel, avec l'une des pièces les plus populaires de César Franck, pleine d'élan irrésistible et de lyrisme ardent, d'une grande intensité expressive. Et elle a été offerte et dédiée au violoniste Eugène Ysaÿe en cadeau de mariage en 1886. Il s'agit de la sonate en la majeur. Et il semblerait que Marcel Proust soit inspiré de la structure cyclique de cette sonate. La structure cyclique, c'est le fait de répéter une même cellule mélodique sous diverses formes pour décrire une forme musicale, et que Proust se serait inspiré de cela pour décrire sa musique imaginaire à lui.
Oui, en effet, on dit que la fameuse sonate de Vinteuil, qui est la première expérience de mémoire involontaire, non pas de Proust lui-même, mais de son héros, Charles Swann, qui chaque fois qu'il l'entend, revit son amour avec Odette de Crécy. D'ailleurs, il finira par dire que cette sonate, c'était l'hymne national de leur amour. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment César Franck. Ça doit être César Franck plus un peu de Fauré, plus un peu de Debussy. C'est avec tout ça que Proust a fait sa sonate de Vinteuil, que le méchant Forcheville, qui est un snob qui fréquente le salon de Madame Verdurin, appelle le serpent à sonate.
Vous voulez qu'on écoute et puis après vous nous parlerez de votre passion pour Proust, mais vous vouliez peut-être dire quelque chose.
Non, j'avais en mémoire les phrases que Proust écrivait. Il disait « Elle nous dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle entraînait Swann, etc. etc. »
C'est ainsi qu'il faut donc écouter cette sonate en la majeur de César Franck.
Thank you.
La sonate en la majeur de César Franck, l'Allegretto Moderato, interprété par Laurent Corsia au violon et Jean-Marc Luisada au piano. Et vous me le disiez à l'instant, Jean-Paul Antoven, Proust est mon ami le plus intime, c'est possible.
Je ne vois pas comment il peut ne pas l'être. Je pense que toute personne qui a lu Proust et dont la vie n'a pas radicalement changé est soit une brute, soit un salaud, pour aller vite. Donc, non, c'est vrai. Et quand quelqu'un me dit que Proust est trop long et que la vie est trop courte, je comprends même pas de quoi il veut parler. C'est un écrivain absolu, voilà.
Qu'est-ce qu'il vous a apporté dans votre vie à vous, Jean-Paul Antoven ?
Une autre façon d'aimer, une autre façon de me souvenir, une autre façon de me sentir innocent, une autre façon de vivre, de dilater le présent.
Est-ce qu'on peut, en lisant Proust ou en lisant des auteurs, comme vous le faites depuis de nombreuses années, Jean-Paul Antoven, changer sa perception du monde, modifier
le sens de la vie ? Je crois même que la littérature ne sert qu'à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un grand livre ? Est un livre qui vous fait voir des choses que vous n'aviez jamais vues avant. Voilà, ça peut être un chef-d'œuvre, ça peut parfois être un livre moins important, mais tout d'un coup, on voit le monde comme si on avait ajouté un projecteur. Et il y a une phrase de Picasso qui dit « La lumière d'un tableau vient toujours d'un autre tableau ». Une phrase très, très profonde. De la même façon, chaque sentiment, pour moi en tout cas, vient d'un projecteur romanesque qui l'a éclairé. Voilà, je peux plus traverser la Côte d'Azur sans la regarder avec les yeux de Hemingway. Je peux plus être à Montparnasse sans penser à Fitzgerald. C'est ainsi, je veux dire. C'est ainsi.
Et est-ce que dans cette optique-là, cette vision du monde, on peut dire la même chose de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, à savoir que cette lecture des Évangiles pourrait vous rendre le monde, vous rendre la perception de cette Passion du Christ, ces derniers jours de la vie du Christ ?
Non, c'est pas. J'ai une lecture totalement agnostique. J'ai une écoute totalement agnostique de ce morceau de musique. Je pense simplement à une chose, c'est que je fréquentais beaucoup l'écrivain. Émile Cioran, qui, comme vous le savez, était un pessimiste absolu, qui ne croyait à rien, qui...
Nihiliste, on pourrait dire.
Nihiliste total, etc. Et une seule chose venait démentir son pessimisme absolu, c'était la Passion selon saint Matthieu de Bach. Et tout d'un coup, c'était... Bach réfute le nihilisme, disait-il. Et pour que lui dise ça, mon Dieu, dis-je, il fallait-il que ça ait un sens, voilà.
C'est peut-être exactement ce que lui aurait pu dire.
Voilà, bien sûr, exactement. Voilà.
Alors on va écouter le dernier moment de cette passion qui est terrible. Hein, c'est l'épisode où le Christ est mis au tombeau. Et ça s'appelle « En larmes, nous nous asseyons ». Alors les paroles, c'est « Christ bien-aimé, nos larmes coulent, entend la Dieu jaillit du cœur, dans la tombe dors en paix, corps sanglant couvert d'outrage, sur ta tombe l'âme lasse et désolée accourra chercher un calme et solitaire abri ». Alors c'est une passion terrible que Jean-Sébastien Bach a réussi à rendre un peu plus que de la musique sacrée. Il a réussi à rendre ça dramatique.
C'est curieux que vous accordiez tant d'importance aux mots dans la musique.
C'est vrai ?
Oui.
Et pourtant, lui, s'est inspiré des textes sacrés pour l'écrire.
Oui, bien sûr. Mais enfin, je pense que c'est les textes sacrés qui se sont... peut-être inspiré de ses sonorités à lui.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à nous faire décoller quand même du texte et que, au fond, Dieu ou pas Dieu, là n'est pas la question. La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, la dernière partie de cette Passion en ce lundi de Pâques, Jean-Paul Antoven, ça tombe à pic.
Je n'y avais pas songé, pour tout vous dire.
C'est vrai ?
Non, mais soyons, vive la résurrection.
France Inter. Vous avez dit classique ? Elsa Boublil.
Jean-Paul Antoven, vous dites que c'est l'été que vous avez découvert les plus belles œuvres de littérature. Pourquoi
oui.
L'été ?
Je ne sais pas, j'associe incroyablement la grande tradition romanesque à la splendeur de l'été, voilà, c'est ainsi.
Ce n'est pas parce que vous avez plus de temps l'été que c'est...
Non, pas du tout, j'ai toujours du temps. Mais j'aime l'été, me rend heureux, l'été, j'aime le soleil, je suis un Inca ou un Égyptien, comme vous voudrez. Et l'été me rend heureux, et quand je suis heureux, je lis mieux.
Ah oui, c'est pas le hasard qui fait que vous tombez sur les œuvres.
Non, pas du tout, non. Mais je prépare mes lectures d'été, je les prépare avec beaucoup de science. Voilà. Alors évidemment, j'avais choisi le Gershwin, qui est...
Summertime.
Oui.
Pour Guillaume Bess.
Oui.
Pour l'été, pour ces œuvres que vous avez lues. Alors, juste un peu avant qu'on en écoute, vous avez quel souvenir comme ça de lecture incroyable l'été ? Vous en avez une là ?
Oui, bien sûr. Ma découverte d'Hemingway en plein été, notamment un roman peu connu qui s'appelle Garden of Eden, le jardin d'Éden, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, mais qui se ressemblent tellement. Ils ont les cheveux très blonds, et ils sont sur cette côte d'Azur encore déserte, à l'époque où on n'a pas encore inventé les bains de soleil. Et c'est un roman très trouble, même érotiquement très trouble. On ne sait pas s'ils sont frères et sœurs, s'ils sont amants. Et je me souviens, et à partir de là, j'ai plongé dans tout Hemingway, que je tiens pour un immense écrivain, et qui pour moi est à jamais associé à l'été. Oui. Stendhal aussi est associé à l'été. Stendhal
et cette aussi. Douceur de vivre de l'été que chante Ella Fitzgerald dans Porgy and Bess de Gershwin.
Don't you cry. singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by.
Porgy and Bess, Summertime, Ella Fitzgerald et la très belle voix aussi de Louis Armstrong. L'opéra de George Gershwin et qui nous mène tout droit vers l'amour, Jean-Paul Antoven, qui semble quand même absolument central. Il y a la littérature et l'amour qui semblent mêlés.
C'est la même chose, non? Ouais. Enfin, il me semble, non?
C'est vous qui le savez mieux que moi là-dessus.
Est-ce qu'il y a de grands livres qui ne parlent pas d'amour? Je ne crois pas.
Et vous?
Un seul. Et moi, quoi?
Et vous, là-dedans, c'est vrai que vous consacrez tout un chapitre, d'abord à vos héroïnes, dans le livre Saison de papier, et puis également, je crois, à vos amours, amitiés et passions.
Oui.
Et à chaque fois qu'on vous lit, on sent bien que cette question-là...
Mais je ne crois pas être un cas particulier. Si les gens sont sincères, ils vous diront que la chose la plus importante de leur vie, c'est l'amour, par sa présence ou par son absence. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus important. Vous diriez quoi? La révolution, l'euro, la loi El Khomri. Qu'est-ce qui est plus important que...
Non, mais en tout cas, c'est au premier plan chez vous. Et visiblement aussi dans vos centres d'intérêt et dans les livres que vous aimez.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est peut-être l'occasion pour nous d'aller directement vers Tosca de Puccini.
Oui.
Et ce moment magnifique à la fin de Tosca où Mario Cavaradossi, qui est l'amant de Tosca, qui attend son exécution. Et il se rappelle les moments de bonheur en compagnie de sa maîtresse. Et il lui fait part, par cette lettre, de son désespoir et dans un cri final, de son amour de la vie, cette façon de prendre conscience du bonheur au sein de
sa... Au moment où il s'en va.
Au moment où il s'en va, est-ce que ça vous parle, à vous, Jean-Paul?
Oui, mais il y a surtout une distinction à faire. La plupart des gens confondent l'amour et la passion, ce qui n'a rien à voir. La passion est destructrice, la passion est complice de la mort, tandis que l'amour est un sentiment qui peut durer. Là, on va écouter de la passion. Et d'ailleurs, c'est une seconde avant la mort.
Violenza volontaria.
et Luce van le Stelle, l'acte 3 de Tosca de Puccini, interprété par Carlo Bergonzi, et c'est l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome sous la direction de Gianandrea Cavazzeni, pour parler de cette relation que vous entretenez, Jean-Paul Anthoven, à l'amour. Mais là, il s'agissait de passion, alors j'en profite pour vous demander si, selon vous, l'amour est possible.
Ah oui, bien sûr, j'en fais l'expérience quotidienne. Mmh. Et je vous souhaite de faire les mêmes expériences.
On ne parle pas de moi, mais je vous demande ça à vous, parce qu'effectivement, vous qui côtoyez ce sentiment aussi à travers les lignes et à travers les romans, est-ce qu'on peut trouver vraiment le sentiment amoureux de manière claire et limpide?
Oui, mais j'ai même avec des créatures... toute spirituelle. J'ai été très, très, très amoureux d'Ariane de Belle du Seigneur. J'ai adoré, j'étais fou amoureux d'Oriane de Guermantes, sans parler des héroïnes de Henry James ou de la Sanseverina de Stendhal. C'est mes vrais émois, les vraies lumières de ma vie, elles sont là. Et les créatures réelles ne m'ont atteint que dans la mesure où elles avaient un morceau de ces créatures-là.
Mais elles sont sublimées dans la littérature, non ?
Je ne sais pas, en tout cas. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. La littérature dit le réel tel qu'il est.
Alors, Leonard Cohen, pour finir cet entretien. Jean-Paul Anthoven, pourquoi ?
Parce que c'est ma petite sonate de Vinteuil à moi. Chacun de nous a une ritournelle dans le cœur, dans la tête, une ritournelle qui l'a associée à des moments de grâce, à des moments de douceur. Et cette chanson, qui est objectivement très belle, de Leonard Cohen, que j'adore par ailleurs, est pour moi la musique d'accompagnement de jolis moments.
Et qui est devenu, on peut dire, un standard de musique, donc un classique, Dance Me to the End of Love. Il s'agit d'un live à Dublin.
Of love. Damn. children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen, extrait d'un live in Dublin enregistré en 2013. Et on va finir avec vous, Jean-Paul Antoven, pardon. Saison de papier, sorti chez Grasset. C'est un recueil de vos textes.
Études littéraires, oui, ouais. Des études littéraires. Pas forcément recueil, il y a de l'inédit, beaucoup.
Oui,
beaucoup,
c'est vrai, puisqu'il y a des textes même assez récents qui nous renvoient à l'actualité, à la disparition de certains grands auteurs aussi. Merci beaucoup d'être venu, on va finir ensemble, j'ai une petite prescription pour vous, mais en tout cas je rappelle aux auditeurs que Saison de papier est sortie chez Grasset et c'est signé Jean-Paul Antoven.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors Jean-Paul Antoven, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, si vous avez le temps d'y aller. Ce festival a commencé le 22 mars, il a lieu jusqu'au 3 avril. C'est Renaud Capuçon, le violoniste qui est en charge de ce festival. Et très beau programme, comme chaque année, beaucoup de violons évidemment. Et samedi 2 avril à 20h30 au Grand Théâtre de Provence. Vous pourrez voir Anne-Sophie Mutter qui interprétera notamment les quatre saisons de Vivaldi, mais également le concerto pour deux violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, puisqu'on a eu Bach pendant cette émission. On va finir avec Bach et je vous propose d'écouter le magnifique dialogue qu'il y a entre ces deux violons interprétés ici par Yitzhak Perlman et Isaac Stern. C'était sous la direction de Zubin Mehta. C'était un concert donné qui a été enregistré où on entend la joie de partager ensemble ce concerto de Jean-Sébastien Bach qui finit bien cette émission. Pascal, quand même. J'espère que ça vous plaira. Le concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, l'Allegro, interprété par Isaac Stern et Israk Perlman. C'est l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Zubin Mehta. Pour vous dire que Anne-Sophie Mutters l'interprétera samedi 2 avril à 20h30 au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du festival de Provence, de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous irez, Jean-Paul Antoven?
Il se trouve que non, mais j'aurais pu.
Oui, vous auriez pu. En tout cas, c'est tentant. Toutes les informations sont sur le site de franceinter.fr, à la rubrique Vous avez dit classique. Un grand merci d'être venu.
Merci à vous, Elsa.
Et puis, merci à Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux-Jalaguier, Claire Destacan. À la technique, c'était Sandrine Laurent. Demain, nous recevons Pippo Del Bono pour parler un peu de dramaturgie italienne. Encore, merci et à bientôt.